Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous embarquez sur le podcast Pop Musique Deluxe.
Bonjour à tous et bienvenue sur Pop Musique Deluxe, le podcast. Je m'appelle Aurélien et je vais vous parler des artistes que j'aime, notamment de ceux qui ont marqué les années 80. Dans cet épisode, je vais vous parler de Marie-Léonore. Entre 1978 et 1987, Marie-Léonore a publié 3 albums et plusieurs 45 tours, et elle a collaboré avec des gens comme Boris Bergman, Robert Palmer, Romano Musumara, Jay Alansky ou David Coven. Et si vous ne connaissez pas sa carrière de chanteuse, vous connaissez forcément l'une de ses chansons, puisque c'est elle qui a signé les paroles d'Ouragan, le tube de l'année 86, interprété par la princesse Stéphanie de Monaco. On aura l'occasion d'en parler ensemble, puisque pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Léonore, dont la discographie vient récemment de faire son apparition sur les plateformes et qui vient de publier sa propre version d'Ouragan. On va revenir sur ces 10 années passées dans la chanson, et sans plus attendre, je prête le micro à Marie-Léonore.
Dans ce silence inachevé, deux matins de volets fermés, mes disques sans pochette sur le sol. Je ne suis pas seule.
Je suis née en Algérie, mais j'ai grandi à Paris, puisqu'on est arrivé en France, j'avais l'âge de 6 ans. Dans ma famille, oui, j'ai une personne qui était actrice, artiste, photographe, enfin, qui m'a certainement initiée involontairement, mais bon.
Avant de se lancer dans la chanson, Marie-Léonore voulait être hôtesse de l'air.
Ah oui, c'est vrai que bon, j'avais 17 ans. J'avais envie d'être hôtesse de l'air et j'avais passé le concours avec mon amie chanteuse aussi Jackie Quartz, et on s'était renseigné, mais on n'avait pas la bonne taille parce qu'il fallait faire 1m75. Aujourd'hui, 1m60 c'est bon, mais j'avais pas la taille. Donc voilà, j'ai renoncé à cette belle carrière. En fait, j'étais pas très fixée sur ce que j'avais envie de faire. J'ai d'abord commencé par un cours d'art dramatique, mais un petit cours comme ça de quartier. Ça a duré 3 mois, en fait. Moi, bon, à chaque fois, ça m'accrochait pas vraiment. Un cours de mime à l'école Lecoq pendant 3 mois. Et j'étais pas bien derrière les masques. J'angoissais. Donc, je suis partie. Et puis après, j'ai fait une école de dessin. Pareil, peinture, dessin, 3 mois. Toujours avec Jackie, on a fait une école comédie musicale à l'époque. C'est une femme qui donnait des cours de chant, qui donnait des cours de danse, de comédie. Et là, voilà, j'ai dû rester quelques mois aussi. Par contre, j'ai découvert ma voix, parce que là, elle m'a fait chanter, elle m'avait donné une chanson à chanter, c'était Göttingen de Barbara. Et là, j'ai chanté cette chanson et là, j'ai eu un déclic, quoi. Quelque chose, c'était très agréable de chanter ça, c'était beau. Enfin, je me suis touchée moi-même, quoi. Ça a été un petit peu une révélation. Donc, je tâtonnais dans l'artistique, c'est-à-dire, je ne savais pas, je me cherchais, en fait. Donc, c'est ça, en fait, je me cherchais. Et puis, donc, j'avais un ami qui était dans le cinéma et je l'accompagnais sur les tournages. J'allais avec lui et là, c'était le tournage d'un film de Claude Berry, Les Garmans. Dans ce film, il y avait un mariage sur la plage et il y avait des gitans qui jouaient. Donc là, il y avait un guitariste qui n'était pas gitan du tout. Mais bon, c'était Lopo Martinez qui a lui-même fait des albums aussi. Hein. Et voilà, il y a eu une petite accroche et tout ça. Donc, il m'a présenté des amis à lui, 2 femmes qui cherchaient à produire une artiste.
Marie-Léonore fait ainsi la connaissance de Martine Valmont et Nadine Laïc, qui ont notamment travaillé avec la chanteuse Eva dans les années 70.
Éclate, vole, plane dans la nuit, sur les diamants glacés des galaxies, les yeux du temps vont hisser les grands voiles, là où les larmes retombent en étoiles.
Vous avez beaucoup de relations avec les radios, avec Nadine Laïc était aussi manager de... Enfin, impresario à l'époque, on disait impresario de Barbara. Elle était déjà un petit peu connue, elle avait ses références avec cette chanteuse. Donc non, elles étaient considérées comme étant sérieuses. Ouais, c'est bien leur travail, il n'y avait pas de problème. J'étais confiante, j'étais entourée, c'était mes petites mères, elles me protégeaient. Et les chansons sont arrivées comme ça. Et je me suis mise devant un micro, j'avais jamais chanté de ma vie. C'était assez spécial, mais bon, voilà, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plus simple. Il n'y avait pas des écoles de chant, de machin, des concours et tout ça. Donc là, je me suis retrouvée devant un micro et voilà, j'ai chanté.
Le parfum des îles, le chant des oiseaux, ma vie défile au fil de l'eau. Je rêve d'un soleil caressant ma peau, mes paris m'éveillent en sursaut. Oh, 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 oh. Porte d'Auteuil ou porte des lilas, Dieu que c'est loin de Panama.
Ouais, moi j'avais envie de m'amuser, voilà, j'étais prête à tout. Hein. J'avais donc 23-24 ans, et donc Le Parfum des îles, donc une chanson de Dominique Blanc-Francard. Et voilà, j'enregistre ce premier titre, ça passe à la radio, je fais quelques télés. Bon, c'est tout nouveau pour moi parce que voilà, je m'étais jamais produite, donc j'étais morte de trac, Le Parfum des îles, mes premières télés. Si on les revoit, j'étais tétanisée, mais bon, voilà, c'est le début, c'est normal, on a peur, on n'est pas... Puis après, ça s'est enchaîné avec Lover.
Après un premier 45 tours en 78, Marie-Léonore enregistre son premier album qui sort en 79, arrangé par Jean Schultes et Lopo Martinez.
J'avais pas de répertoire, en fait. Donc, elle connaissait des gens à droite à gauche, donc elles m'ont ramassé des chansons. Il y en avait une de Plamondon. Il y a que Lover, avec qui j'ai le compositeur Paul Ives, un anglais, avec qui j'ai travaillé directement. Et lui, il a été amené par Boris Bergman, parce qu'il travaillait avec Boris. Et Boris était ami avec Nadine Laïc, parce que Boris avait écrit aussi une chanson pour Eva. Donc c'est lui qui a amené Paul Ives et qui m'a composé Lover.
Cœur en stress, ça m'en stresse, il cherche un amour miroir pour s'y voir. Il me laisse mal au corps et au cœur. Lover, 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 lover. Dans ses bras dérisoires, j'ai mille fois tenté de croire à ce garçon qui pleure bien plus femme que mon cœur. Lover, lover, lover.
Vraiment, je débarquais, donc j'allais pas leur dire ce qu'ils devaient faire. Hein. Non, non, moi je suivais, j'étais contente, ils me faisaient du bon travail. Bon, c'était pas tout à fait ce que j'aimais, mais bon, c'est le début. Hein. Je me dis, bon, il faut bien débuter par quelque chose, donc on verra par la suite. Et non, non, j'ai suivi le mouvement et c'est vrai que j'avais de très bons musiciens et j'étais contente. Et après, j'avais fait une belle pochette avec mon dino en haut d'un hôtel dans une piscine, là. Et là, ça a été la période vraiment où... Elles m'ont fait beaucoup, beaucoup de promotions. J'avais énormément de télé, ouais. Je faisais partie de la nouvelle chanson française. Il y avait Bachung, il y avait Lalanne, enfin bref, voilà, on était un petit nombre de débutants et on était la nouvelle chanson française.
En 1980, Marie-Léonore enregistre un deuxième album, Haute Tension. La variété des débuts laisse place à un son plus rock et le disque est essentiellement composé par Paul Ives et écrit par Boris Bergman.
Bah pour moi, c'était une évolution hein, de travailler avec Boris. Il venait de faire Gabi et il faisait des chansons chouettes avec Bachung. Et puis, bon, les musiques de Paul, oui, c'était une vraie évolution. Hein. Et les arrangements, bah, c'était Angèle. Et là, vraiment, Angèle, il innovait, quoi, parce qu'il m'a fait des arrangements comme Télescope. C'était très moderne hein, pour l'époque. C'était beaucoup très synthé. Il m'a fait vraiment de très bons arrangements.
Il l'a regardé. Il venait chaque jour réglé comme un horoscope, jusqu'au jour où je crois qu'il n'est plus venu.
J'écrivais pas encore. Si j'ai écrit une ou deux chansons dans cet album, hein, je crois. Bon, j'étais encore hésitante sur l'écriture. Boris, il amenait les textes et puis on les travaillait ensemble et je disais rien parce que pour moi, c'était parfait, quoi. Quand il m'a amené des chansons, je pouvais rien dire parce que je trouvais ça super. C'était très drôle. Pour moi, c'était humoristique. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que c'était peut-être pas tout à fait... ça exprimait pas tout à fait ma personne. C'était un peu imagé, il y avait beaucoup de choses cachées, de sens cachés et tout. Sur le moment, j'étais contente de le faire, oui, oui.
Dans cet album, on trouve une adaptation de Johnny and Mary, un tube du chanteur anglais Robert Palmer, qui sort en France à l'été 80, très peu de temps avant la version de Marie-Léonore. Les deux artistes vont se retrouver à en faire la promotion ensemble et en duo sur quelques émissions télé.
C'est son éditeur, en fait, l'éditeur de Palmer, qui a demandé à Boris de faire une adaptation. Bon, il ne savait pas qu'il allait me la confier. Donc, il lui a demandé, tiens, tu ne veux pas faire une adaptation de cette chanson? Bon, Boris l'a faite. Et comme on était en train de faire l'album, bah, Boris a dit, bon, bah, je la donne à Marie, puisqu'on est en train de faire l'album, elle a besoin d'une chanson. Moi, je ne connaissais pas la chanson.
Johnny est toujours...
Un jour, il fait une émission de Sabatier ou je ne sais plus qui. Et puis, il me dédicace, je l'entends, je dédicace cette chanson à Marie-Léonore. Je dis, oh, c'est vraiment super. Et puis, ma maison de disques a organisé un rendez-vous. Il chantait à Mogador, au théâtre Mogador. Je suis allée le voir à la fin du show. Voilà, on a parlé, il y avait mon équipe, il y avait la sienne. On est allés au restaurant, enfin, on a parlé. Ça s'est très bien passé. Et puis, après, on m'a demandé de faire un duo avec lui. Là, il chantait moitié français, moitié anglais, en fait. Il aimait bien, il aimait beaucoup. Et moi, je ne savais pas, ça fait pas longtemps que je sais qu'en fait, il aimait beaucoup ma version et qu'il avait dit qu'en fait, c'est la première fois qu'il appréciait une version de ses chansons, une adaptation de ses chansons. Et ça, j'ignorais complètement. Après donc la promotion qu'on avait fait ensemble, donc il me propose de faire des dates avec lui. Ouais, ok, 3 dates dans les arènes de Nîmes, enfin je sais plus où, enfin il y en a eu plusieurs comme ça dans le sud. On se prépare, on prend un petit groupe. C'est la première fois que je montais sur scène, donc pareil, j'étais pas trop à l'aise. Mais bon, ça s'est très bien passé. Moi, ce que je craignais, c'est de me faire jeter, parce que quand même, il avait un public, voilà, c'est rock. Et bon, mais tout s'est bien passé, quoi. C'était... Puis Palmer, il se marrait. Ça le faisait marrer, il trouvait ça marrant que je fasse mon baptême du feu comme ça. Bon, moi, j'étais un peu sur un petit nuage. Je réalisais pas vraiment ce qui se passait, en fait. Enfin, pour moi, c'était un chanteur, voilà, comme un autre. Et puis, j'étais pas ni intimidée, ni quoi que ce soit. C'est passé très bien.
Pour son 45 tours suivant, Enroule-moi, en 81, c'est Robert Palmer qui signe arrangement, direction musicale et réalisation.
À l'époque, c'est mes productrices, parce qu'elles voulaient que je travaille avec lui, quoi, en fait. Après, voilà, elles voulaient qu'on continue. Bon, il a tout de suite dit oui, hein. Il est OK, super. Voilà, donc on s'est retrouvés à New York avec les plus grands musiciens. Lui, il avait quand même fait, comment dire, il avait enregistré avec les musiciens. Donc moi, quand je suis arrivée, j'avais plus qu'à poser ma voix, je pense. Ouais, c'était déjà fait. Ah oui, il a dû me diriger pour la voix, certainement. Je me rappelle plus trop, mais bah, il a même chanté. Il était dans les chœurs d'Enroule-moi, donc il chantait avec moi. Enfin bon, il était très très simple en fait. Hein, et c'était une personne très simple, très très sympathique, très joyeuse, très et facile. C'était une personne facile.
Robert Palmer incite Marie-Léonore à écrire ses propres chansons. Elle suit ses conseils et lui envoie chez lui, aux Bahamas, une cassette avec Baby Oh Babe, qui sortira en 45 tours en 82.
Je lui envoyais donc mes musiques que je faisais à la voix, parce que je ne suis pas musicienne, donc mon instrument c'était la voix, donc je composais à la voix, et avec une petite boîte à rythme pour lui montrer un peu ce que je voulais, quoi, un peu l'ambiance, tout ça. Et il m'avait dit « Ouais, ça me fait penser à Yoko Ono ». Bon, c'est peut-être le côté un peu artisanal, je sais pas, de Yoko Ono. Mais oui, il était content de le faire. Et puis, il a réuni les grands musiciens, quoi. Avec Mick Karn, le bassiste de Japan. Et on a travaillé avec des gens, mais vraiment des pointures, quoi. Donc, le son, le début de Baby Oh Babe, donc il y avait Baby Oh Babe. J'en attendais pas autant, quoi. Ça a été un cadeau, quoi. Ça a été ma petite chanson, là. Et tout d'un coup, ça devenait quelque chose de magnifique.
Baby, je sens qu'il pleut sur mon toit. Si c'est pas la pluie, c'était pas. T'inquiète pas pour mes larmes, t'inquiète pas pour mes larmes.
Je me suis demandé si on ne pouvait pas dresser un parallèle entre ses premières expériences artistiques avec des mentors comme Boris Bergman et Robert Palmer et le thème du premier roman de Marie-Léonore paru en 2021, Les couleurs d'un maître, dans lequel une jeune femme est initiée à la peinture par un maître, en l'occurrence Nicolas de Staël, sur fond de relations amoureuses.
Je ne me suis jamais posé la question, mais comme je dis souvent, l'inconscient est le grand décideur, hein, comme dit Freud. Donc voilà, c'est inconscient, certainement, je ne m'en suis pas rendu compte, mais des maîtres, pour moi, il y avait donc Boris, d'abord, pour les textes, parce qu'il m'a beaucoup influencé. Il m'a influencé, quoi qu'après, bon, je me suis rendu compte que ça ne parlait pas assez de moi, c'était un peu trop métaphorique, mais c'est pour ça que mon album, les textes aussi, sont un petit peu, abstraits, je dirais. Contrairement à Ouragan, bon, qui était un texte très, très direct. Donc, il y a eu Boris, qui m'a appris, en le voyant travailler, j'ai appris. Et après, Palmer, oui, en le voyant travailler, puis son énergie, son... Ça a été bref, mais ouais, intense.
Du 26 avril au 2 mai 1982, Marie-Léonore est sur la scène de l'Olympia, en première partie de William Scheller.
C'était mon quatrième concert, la quatrième fois que je montais sur scène. Et c'est pareil, j'avais peur, un peu moins peur, mais j'avais peur quand même. Et puis voilà, c'est pour ça que j'étais un peu statique. Et donc c'était avec les musiciens de Bachung, avec qui j'avais fait Pas déranger, mon album. C'est eux qui m'ont accompagné à l'Olympia. C'est le KGDD que j'avais nommé comme ça, les musiciens de Bachung. En fait, parce que Boris, comme il travaillait avec Bachung, donc il connaissait les musiciens, et ils étaient très contents. Même aujourd'hui, ils me disent que c'est vraiment la collaboration qui leur a le plus plu, en fait. C'est marrant, parce que ouais, avec le temps, on apprend des choses, c'est bien.
En 83, Marie-Léonore enregistre son troisième album, Pas déranger, qu'elle écrit et compose entièrement. Aux arrangements, le KGDD, les musiciens de Bachung, à savoir Manfred Kovacic, Olivier Guindon, Philippe Drey et François Delage. L'ambiance est New Wave, avec des incursions dans les années 60 et des sonorités orientales. C'est à mon sens son meilleur disque et le plus personnel. Il s'ouvre sur Pas déranger, aux allures de règlement de compte.
Dit qu'un temps, dit qu'un danse, gentleman change de séquence. Tous les jours ma vie jurait d'aimer, tous les dés étaient truqués. Je marcherai plus jamais dans tes sables mouvants, je marcherai plus jamais dans tes sables mouvants, non.
Oui, je m'en suis pas rendu compte en fait, hein. Sur le coup, quand j'ai écrit, je me suis pas rendu compte. Quand j'ai enregistré, je me suis pas rendu compte. C'est peut-être maintenant seulement, donc tu vois, ça fait quand même longtemps. Mais voilà, bon, oui, j'avais besoin de dire ça. J'étais énervée. C'est vrai que j'ai eu une rupture amoureuse difficile, donc j'avais besoin d'en parler, d'exprimer, de ressortir tout ça. Donc ça, c'est ça qui m'a inspirée, certainement. Des choses plus personnelles. De composer, c'est venu comme ça, en fait, Le premier avec Palmer, c'était tellement bien passé, j'ai continué, quoi. Je me suis dit, je vais en faire d'autres. Et donc, j'ai enregistré cet album et là, je vais commencer à me trouver. Je dis, ça y est, là, j'ai trouvé. Ça faisait 8 ans que j'avais commencé, je galérais, à chercher mon style, quoi. Je galérais, c'est-à-dire que je passais d'un style à l'autre et tout. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai enfin trouvé, ce que j'ai envie de faire, mon style. C'est un peu aussi Boris, toujours, parce que lui, il a compté aussi, hein, beaucoup, Boris. Parce que Boris, il était très japonisant, il parlait japonais, il était avec une japonaise, il m'a inspiré, le Japon, c'était bien. Donc voilà, j'avais pris des documentations sur l'île d'Hokkaido, tout ça, puis j'ai pris des prospectus, et puis voilà, je suis partie, j'ai écrit mon texte comme si j'y avais été, en fait.
Comme tu m'as dit, tu restes sur la lune rouge, t'attendais les saisons que le vent te bouge. Je sais qu'on est tous les idiots d'un dieu, pardonne-moi, mais tu sais qu'est-ce qu'on y peut. Parce qu'elle est toujours près de moi, c'est mon amie. Dès que je la vois briller dans le ciel, je sais qu'elle vit.
Ça a été dommage. Parce qu'en fait, elles m'ont soutenue pendant 8 ans. Et quand j'ai fait cet album, elles n'étaient pas d'accord. Pour elles, c'était pas ça, c'était pas ce qu'il fallait faire. Enfin bon, là, on n'était plus d'accord. Donc, elles m'ont dit, bon, ben, on va travailler avec David Coven. Bon, je l'aimais bien. Je dis, bon, ben, oui, pourquoi pas. Mais bon, je suivais un peu. Mais après, quand on est artiste, c'est vrai qu'on n'a pas toujours... Moi, j'étais encore jeune et on n'a pas toujours son mot à dire. Hein, j'ai fait ce 45, Elle manque à sa vie, avec David. C'était une très belle mélodie, un bel arrangement. Mais bon, c'était pas ce vers quoi j'allais juste avant.
Elle manque à ses nuits. Elle manque à sa vie. Tellement qu'il voudrait décrocher la lune dans le caniveau.
Après le 45 tours, Elle manque à sa vie en 84, Marie-Léonore change une nouvelle fois de direction artistique et fait appel à Romano Musumara, qu'on connaît alors pour les tubes qu'il compose et arrange pour Jeanne Masse.
Les mélodies, en fait, j'aimais beaucoup ces mélodies, les mélodies à l'italienne, quoi, les belles mélodies. Là, on m'a demandé, parce que après Elle manque à sa vie, moi, j'étais un peu contrariée, quoi, de pas avoir fait vraiment ce que je voulais faire. Donc, elles m'ont dit, bon, alors, avec qui tu veux travailler maintenant, vraiment ben voilà, je dis, voilà, j'ai envie de travailler avec Romano Musumara. Elles ont tout fait pour, elles se sont débrouillées pour le trouver, pour le faire venir, pour... pour qu'il m'envoie une musique, et voilà, ça s'est fait. En fait, il n'y en avait qu'une, il m'a proposé sa maquette avec sa voix à lui, avec ses mots en italien, et je l'ai fait très vite en fait, ça s'est fait comme un ouragan. Bon, c'est en italien, je n'avais pas trop... mais bon, je me suis dit, on dirait que ça ressemble à un ouragan, donc j'ai gardé, parce que ça arrive souvent que les compositeurs, ils mettent un mot, enfin, ils laissent un mot, une parole, comme lover, le compositeur, il avait mis lover, on le garde, quand c'est bien... On le garde, donc je me dis ouragan, c'est bien, on garde comme un ouragan. Et après, j'ai fait mon histoire autour.
Vision d'orage, je voulais pas, tu t'en ailles. La passion comme une ombre, fallait que j'y succombe. Tu m'enlaces dans les ruines du vieux Rome.
C'est pas que ce soit quelqu'un d'autre qui la chante qui me gêne, c'est que on me l'ait attrapé au vol, quoi, qu'on me l'ait prise. Après, qui la chante après, ça m'est égal. Mais c'est le fait qu'on ait fait écouter la maquette, parce que mes productrices, bon, bah, elles étaient un petit peu, elles avaient des problèmes financiers, elles pouvaient pas le produire elles-mêmes, donc elles allaient faire les maisons de disques. Elle est arrivée chez Carrère avec cette maquette. Donc Carrère, voilà, qui est un grand Manitou du métier, a dit « Ouais, super cette chanson, mais moi, je veux faire de l'argent et je vais la faire chanter par une personne qui est connue. » Et voilà, un jour, j'ai appris que c'est pas moi qui la chanterais. Mais j'ai eu de la chance, ils ont gardé le texte quand même. Je ne sais pas qui a décidé de le garder, c'est Romano, Stéphanie. Là, je ne sais pas, parce qu'après tout ce qui s'est passé, c'était en dehors de mon contrôle, c'était je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ça a été difficile, ouais, parce que moi, ça m'a... C'était l'occasion pour moi de percer, parce que ça faisait 8 ans que, voilà, que je faisais mes albums, que je faisais mes chansons. Et là, j'avais une chanson enfin qui allait pouvoir me lancer. Parce que pour moi, c'était, quelle que soit la personne qui la chante, c'était un succès, hein, parce que c'était une très bonne chanson. J'étais sûre que ça marchait. Alors moi, j'étais un peu bête, parce que bon, j'étais encore en contrat. J'ai cassé mon contrat. Parce que je comprenais pas pourquoi mes productrices, elles m'avaient pas produit ce disque. Enfin, je savais pas, parce qu'il se passait des choses un peu souterraines et je ne savais pas quoi, en fait. Donc, j'ai rompu mon contrat, pensant que c'était elle qui voulait pas me le faire faire. Après, je suis allée voir une autre maison de disque. Bon, il y a une maison de disque qui voulait vraiment m'enregistrer, mais bon, j'étais encore en contrat. Enfin, bref. Moi, je me suis un peu démenée quand même pour pouvoir la chanter, mais voilà, j'avais perdu d'avance. Après, quand j'ai appris que c'était Stéphanie, bon, quelques mois après, je dis bon, bah, c'est bien, c'est super. Bon, une princesse, bon, bah, voilà. Ouais. Je vais pas me plaindre, hein. C'est un beau cadeau, il y a mon texte. Bon, voilà, c'est une consolation.
En 87, Marie-Léonore sort son dernier 45 tours, Vienne, composé, arrangé et réalisé par Jalansky.
Je me retrouve chez Polydor. J'avais eu des musiques de je crois, d'Arnold Turboust. Enfin, j'avais plein de musiques comme ça. Puis voilà, j'en ai une de Jalansky, donc, qui est arrivée. On a enregistré, j'avais envie de refaire un disque. Et puis, il m'a proposé cette chanson, que je trouvais super aussi, mélodiquement. Pour moi, c'était une chanson très, très mélodique et très, très belle. Puis c'est pas passé grand-chose, quoi, après, parce que j'ai pas eu beaucoup de promotion. Voilà, j'en avais un petit peu assez. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose.
Yeah.
vous l'avez entendu au début de cette émission, il se trouve que Marie-Léonore est amie avec Jackie Quartz depuis l'adolescence.
En sixième, on s'est connus au lycée Maurice Ravel à Paris, dans le 12e. Et je me suis retrouvée interne. Elle était interne aussi, on était toutes les deux internes. Je me suis retrouvée là à 12 ans. On se croisait dans les couloirs. Je me rappelle que dans les dortoirs, elle me faisait rire, quoi. Elle était marrante, elle sautait sur les armoires, elle faisait le clown. Enfin, c'était un phénomène, hein. Elle était spéciale, marrante, hein. Vraiment très marrante. On a quitté l'internat et puis on s'est retrouvés dehors, on avait 17 ans. Et puis c'est là qu'on a commencé à... Bon, on traînait un peu, on allait avec les gens qui jouaient de la guitare. Enfin bon, on a eu une adolescente comme ça, un peu, comment dire, marginale, disons. Mais bon, on était chacun dans notre famille, mais voilà, on sortait, on allait en boîte, on faisait les folles, on a fait pas mal les folles, on s'est amusé, vraiment, on a des bons souvenirs, on partait dans des festivals pop en Allemagne, en stop. C'est vrai que là, en ce moment, on se dit, mais oh là là, on a vraiment échappé à plein de choses, parce que, en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui, on faisait du stop, on partait toute seule, on était deux filles, mais bon, non, on avait la chance avec nous, et on s'est vraiment éclaté, ouais. On a chacune, en fait, un départ presque en même temps. Donc j'ai fait mon premier 45 tours, elle n'avait pas encore commencé, et moi je faisais des chansons avec Bob Decoux. Puis j'arrêtais pas de lui dire, oh là là, Jackie Quartz, elle est géniale et tout, elle faisait du patin roulette, enfin, elle était, bon voilà, physiquement, elle était très, très sportive, moi elle m'impressionnait, quoi, elle était, oh là là, mais tu devrais l'écouter et tout, elle est super. Parce que lui, il connaissait une productrice qui s'appelait Sybille de Marsan, et je voulais qu'elle trouve une maison de disques, quoi, qu'elle fasse son disque. Bah, c'est-à-dire qu'on a eu une carrière en parallèle, en fait, qui se rencontrait jamais, puisque... J'étais un petit peu confinée, un peu trop surprotégée. Maintenant, avec le recul, bon, voilà, c'était comme ça. Et c'est dommage, parce que maintenant, je me dis qu'on aurait pu chanter ensemble. Mais oui, on a eu des routes parallèles. Bon, la mienne s'est arrêtée plutôt que la sienne. On est encore copines. Bah, ça fait 50 ans, oui, à peu près, 50 ans. On avait 17 ans, oui.
En 2026, le tube Ouragan fête ses 40 ans et Marie-Léonore a voulu en proposer une nouvelle version, sa version, avec la complicité de Régis Ceccarelli et Dominique Blanc-Francard.
Eh bien, c'était un petit peu un hasard, en fait, parce que j'ai pas, pendant 40 ans, je me suis pas dit, oh là là, je vais la chanter un jour. Non, j'avais complètement oublié. Et c'est il y a l'année dernière, des personnes qui me contactent sur les réseaux, tout ça, et qui me disent, mais pourquoi tu fais pas ta réédition de tous tes albums, tout ça? Moi, j'avais pas pensé du tout. Je savais même pas où étaient mes chansons, enfin, parce qu'après, elles se répartissent dans les maisons de disques, on sait pas où. Donc, au bout d'un mois, de six, huit mois, donc j'ai retrouvé une partie de mes chansons. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas Ouragan? Je l'aime bien, cette chanson. Et puis, j'en parlais autour de moi. Et en fait, c'est grâce aux encouragements des gens que je l'ai vraiment enregistrée, parce que tout le monde me disait, c'est super, super idée. C'est ta chanson, tu devais la chanter, tout ça, c'est... Et j'ai eu une espèce d'élan de solidarité, en fait, des gens. Dominique Blanc-Francard, qui m'a enregistrée. Régis Ceccarelli, l'arrangeur. Enfin, tout le monde avait envie de m'aider, quoi. Tout le monde avait envie d'apporter quelque chose, qui adorait cette chanson, qui disait que c'était dommage. Enfin, pour moi, ça a dû être dur, tout ça. En fait, j'avais pas du tout l'idée de rechanter ni quoi que ce soit, parce que bon, voilà, ça fait 35 ans que j'avais pas chanté. J'ai dû prendre quelques cours de chant quand même. Et puis, mais c'est pas l'idée, c'est pas de rechanter, de refaire une carrière. Bon, je veux dire, à mon âge, je vais pas. C'était juste pour le plaisir, en fait. Le plaisir, parce que j'adore cette chanson, et c'est une chanson qui représente quelque chose et qui a un sens.
Que sa discographie vient d'être rééditée sur les plateformes, quel regard Marie-Léonore porte-t-elle sur ces 10 années passées dans la chanson?
Ça a été une évolution et voilà le temps qu'il faut pour se trouver, pour un artiste. C'est vrai que maintenant, je ne sais pas si on a le temps comme ça de se trouver. Mais le problème, c'est que moi, quand je me suis trouvée, ben voilà, il n'y a pas eu de suite. Mais non, c'est parce que je pense que c'est parce que je n'ai pas fait de scène, en fait. C'est pareil, mes productrices, elles n'étaient pas très branchées scène. Donc... Et ça a manqué, en fait. Ce contact, j'avais pas ce contact avec le public. Ça manque, ça. Maintenant, je m'en rends compte, parce que j'ai beaucoup évolué, j'étais pas la même personne, j'étais assez, introvertie, j'étais timide, quoi. Mais aujourd'hui, bon, ben voilà, j'irai devant les gens, je serai vraiment heureuse, quoi. C'est pas maintenant que je vais aller sur scène faire la folle, mais maintenant, je saurai le faire.
Et quelles sont vos envies aujourd'hui, Marie ?
Eh bien, mes envies, c'est de continuer à écrire. Là, j'écris un deuxième roman, là. Je cherche un éditeur, d'ailleurs. Donc, j'écris, voilà. Ça me plaît, j'écris. Je suis dans mon univers. Mais bon, c'est vrai que ouais, ça me titille, là, ça y est, la chanson. Je me dis, oh là, bah tiens, je ferais bien un duo avec un tel. Je dis, mais ça va pas, non. Je vais pas faire de scène, je vais pas chanter. Voilà, c'est marrant, quoi. On croit que c'est fini, puis non, c'est pas fini, en fait.
Je vous invite à aller découvrir ou redécouvrir la discographie de Marie-Léonore. Une grande partie est déjà sur les plateformes et l'album Pas dérangé va arriver très bientôt. Je souhaite plein de bonnes choses à Marie-Léonore pour ses projets littéraires et pourquoi pas musicaux, qui sait. Je vous remercie de votre écoute et je remercie bien évidemment Marie-Léonore pour sa présence, mais également Mathieu Rosaz, Ludovic Cuvier, ainsi que le blog Robert Palmer Music and Style, une mine d'informations que je vous invite à consulter. À très bientôt pour un nouvel épisode de Pop Music Deluxe.